les quatre saisons.
La politique est un cycle.
Il ne faut pas faire n'importe quoi pour le symbole.
Elle est faite d'orages et d'éclaircies.
Et que le soleil brille pour tous.
Un éternel recommencement.
Le Vivaldi, c'est la fin de la Belgique.
Baptiste Tupin, Imad Messoudi.
Non, cette semaine, c'est pas Imad, c'est Thomas qui est avec nous. Bonjour Thomas.
Salut à tous.
Et on va vous parler de la gestion du Covid.
Et surtout, on va épingler les incohérences dans le discours politique.
C'est visiblement reparti pour un tour.
Les quatre saisons. La politique belge racontée à l'ère de la Vivaldi.
Vous savez qu'on est un pays compliqué, hein ?
Automne.
Goedenavond.
Depuis quelques jours,
on a plus que 500 lits dans les soins intensifs.
On a comme un désagréable sentiment de déjà-vu.
Ça a toujours été vu comme la ligne rouge.
Dans le grand cycle politique,
la situation sanitaire bouscule les agendas.
L'automne 2021 commence tout doucement à prendre les teintes de l'automne 2020.
On va dépasser un seuil que l'on considère vraiment comme critique.
Un comité de concertation sur fond de quatrième vague.
Alors c'est vrai, on était prévenu qu'elle pouvait surgir, cette quatrième vague.
Mais les modèles mathématiques savaient qu'on est dans une période charnière et donc que l'automne jusque décembre sera une période cruciale et critique où il faut qu'on soit attentif.
Mais son ampleur a surpris jusqu'au ministre fédéral de la Santé, Frank Van den Broek.
On avait attendu cette quatrième vague, mais on ne savait pas qu'elle serait si forte.
Et le dernier tour de vis du comité de concertation...
Au maximum, limiter nos contacts.
...est loin...
On doit revenir à la culture du masque.
Très loin...
4 jours de télétravail.
...des espoirs suscités par la vaccination au début de l'été.
Il y a beaucoup d'espoir. Le vaccin, c'est vraiment la liberté.
Dans cet épisode... On va donc se demander comment ce nouveau durcissement sera perçu.
Mais je trouve que c'est aberrant.
Alors qu'on a touché du bout des doigts le retour à la normale.
Chaque Belge qui se fait vacciner nous rapproche un peu plus d'un retour à la normale.
Comment continuer à convaincre ?
Des réponses qui soient des réponses acceptées par la population.
Alors que le discours politique a muté au gré des variants du coronavirus.
On a un virus qui est très contagieux, beaucoup plus qu'au moment où on a commencé la vaccination.
Parce qu'il se situe bien là le problème.
On a vraiment... sous-estimer la contagiosité du virus.
Ce qui était peut-être vrai à la fin de l'été...
Cette épidémie est en train de devenir une épidémie des personnes qui sont non vaccinées.
N'est plus aussi vrai à la fin de l'automne.
Il y a aussi des vaccinés qui tombent victimes. Donc les vaccins sont extrêmement efficaces contre la maladie. Mais évidemment, aussi des vaccinés peuvent tomber victimes.
Tout comme le CST.
Ce qu'on appelle le COVID Safe Ticket.
Il était présenté comme le sésame pour éviter la quatrième vague.
Avec la vaccination, le CST est indispensable.
Ici, c'est le ministre de la Santé bruxellois qui le défend en septembre.
C'est vraiment un instrument qui permet de gérer les risques.
Aujourd'hui, ce CST ne s'avère plus si safe que cela, selon Yves Van Lathem.
Le vaccin est une base dans la limitation de la transmission, mais il n'est plus aussi adéquat pour dire que c'est un COVID Safe Ticket, le fameux Safe, qui était valable avec la souche chinoise que l'on connaissait au départ, n'est plus valable avec le variant Delta.
Place maintenant au COVID Safe Ticket Plus.
COVID Safe Ticket Plus, ça veut dire COVID Safe Ticket combiné avec le masque.
La vaccination était présentée au départ comme non obligatoire.
Ce n'est pas quelque chose qu'on peut rendre obligatoire pour tout un chacun.
Un an plus tard, cette vaccination obligatoire est tout de même à l'étude.
Moi, je pense que la seule manière de s'en sortir, c'est de dire que ce vaccin doit être obligatoire pour tout le monde.
Et une troisième dose de vaccin sera proposée à toute la population.
La troisième dose généralisée.
Alors, comment continuer à susciter l'adhésion aux mesures après autant de revirements ?
Il faut qu'il y ait derrière nous une population qui suivent ces mesures, sinon ça ne sert à rien.
Comment justifier de tels allers-retours ?
Nous avons tous espéré que l'automne aurait été plus léger.
Est-ce un manque de prévoyance politique ?
On est souvent en retard dans cette épidémie.
Ou est-ce une adaptation nécessaire de la lutte contre un ennemi qui ne cesse de changer de visage ?
Donc des mutants.
C'est le casse-tête politique qui dure depuis bientôt 2 ans maintenant. Prendre des décisions impopulaires.
Alors qu'il y a une déception et une frustration, je le comprends. Très bien.
Sur base d'une connaissance du virus imparfaite.
Un virus qui évolue, qu'on croit maîtriser, mais finalement qu'on ne maîtrise pas.
Sans donner l'impression de duper le citoyen lorsqu'il faut changer de cap.
Chaque Belge qui se fait vacciner nous rapproche un peu plus d'une victoire sur les virus.
Pour résoudre ce casse-tête, il faudra maintenant tenir compte des surprises que peut encore réserver le virus.
Il y a eu des milliers de mutations.
On risque de voir cette quatrième vague emporter sur son passage une portion supplémentaire de crédibilité politique.
Parce que le vaccin, c'est vraiment la liberté.
Comment les Belges auront-ils perçu le message de ce dernier comité de concertation? Pour poursuivre la réflexion, on est à Louvain-la-Neuve, où, il faut bien le dire, on a l'impression que la vie continue comme si de rien n'était, comme si l'épidémie, finalement, n'avait pas repris. Salut Thomas.
Salut à tous.
On est ici aussi avec Vincent Iserbyt. Bonjour.
Bonjour.
Thomas, pourquoi est-ce qu'on a choisi de venir voir Vincent Iserbyt?
Parce que Vincent Iserbyt est professeur de psychologie sociale pour décortiquer justement le comportement des Belges durant cette épidémie. Il est aussi auteur avec différentes universités de ce qu'on appelle le baromètre de la motivation. C'est un peu la Bible pour essayer de comprendre comment se comportent les Belges durant cette crise. Première question, on est entouré de jeunes ici, de gens sur cette grande place de Louvain-la-Neuve. Comment vous avez l'impression qu'ils ont perçu le message d'hier? Votre objectif, c'était qu'on puisse se planifier un peu les prochaines semaines, les prochains mois. Chaque Belge a envie de savoir ce qu'il va faire pendant les fêtes. Est-ce que ce message a bien été reçu, vous avez l'impression, par les Belges qui nous entourent?
Mais j'ai pas l'impression, effectivement, que ça a été super bien reçu. D'abord, c'est un message qui était quand même relativement complexe dans une série d'aspects, hein, notamment lié au télétravail, par exemple, qui est compliqué à gérer. Et de manière générale, il y a la question de cette prévisibilité, de la capacité qu'on offre aux personnes, aux citoyens, de pouvoir entrevoir la manière dont les choses vont évoluer. Et notamment, eu égard aux jauges, aux différents éléments chiffrés de la situation. Et là, on est un petit peu en difficulté. On ne voit pas véritablement, on ne peut pas se projeter facilement dans les semaines et les mois qui viennent.
Donc l'idée, ça aurait plutôt dû être de dire, bon mais voilà, on prend telle mesure, et tant qu'on est à tel seuil épidémiologique, on ne va pas cesser cette mesure ou on ne va pas être plus souple. Ça, c'est quelque chose que vous mentionnez depuis très longtemps et que, manifestement, il peine à mettre en place. Pourquoi, selon vous ?
Mais je pense que c'est toujours très difficile. On est à un niveau, je dirais, d'expertise scientifique. Et donc, nous nous penchons sur le sentiment des Belges, la motivation des Belges à respecter les gestes barrières, la façon dont ils entrevoient la situation. Évidemment, c'est un niveau d'analyse qui doit rencontrer les exigences politiques. Et j'imagine qu'il y a des tractations qui s'engagent au niveau politique, qui nous dépassent un petit peu. Moi, je regrette, à titre personnel et au sein du groupe Motivation, Baromètre de la Motivation aussi, on regrette qu'il n'y ait pas davantage cette prise en compte de cet élément de prévisibilité parce qu'il est essentiel pour que la population puisse, j'allais dire, à l'unisson se projeter dans la manière dont les choses vont évoluer.
Un des exemples, c'est la question justement du télétravail. Dans 3 semaines, la situation pourrait être réévaluée. On pourrait avoir un jour de présentiel en plus. C'est ce genre d'éléments-là qui sapent en fait la lisibilité. Ça sera quoi la conséquence concrètement? Les gens, s'ils ne comprennent pas, alors ils ne respecteront pas, tout simplement.
Je crois qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été perturbants pour la population et en particulier le fait qu'on a commencé à abandonner des gestes barrières. Alors d'une part, on pourrait dire la décision de la Flandre de laisser tomber le masque, ça n'a pas simplifié les choses et ça compliquer la compréhension de la population parce que ne nous cachons pas les choses, énormément de francophones se rendent du côté néerlandophone pour la côte, etc. Donc voilà, c'était compliqué. Et puis il y a également le fait que le CST en soi est un élément qui a créé un environnement dans lequel on s'est dit finalement il ne faut plus trop faire attention, il ne faut même plus faire attention du tout. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a, somme toute, un petit peu enlevé la pertinence des gestes barrières. Finalement, on peut fonctionner très convenablement sans ces gestes barrières. Là, on nous dit il faut les réinstaurer. Moi, je suis absolument partisan de le faire, mais c'est compliqué d'avoir expliqué à nos citoyens qu'on pouvait s'en passer et puis qu'il faut les remettre.
Justement, ce Covid Safe Ticket, qui n'est pas totalement safe, c'est ce que vous martelez d'ailleurs dans vos baromètres aussi, doit être appuyé d'une nouvelle barrière, le masque. C'est possible en politique d'avoir des arguments contraires, comme ça, contradictoires, dans un laps de temps assez réduit, et de continuer de convaincre ?
politique.
Je pense que c'est très compliqué en politique de faire ça. C'est moins compliqué quand on l'annonce. C'est-à-dire, c'est moins compliqué quand on se dit ou quand on annonce à la population que, au vu de l'évolution des chiffres de la pandémie, on devra éventuellement réinstaurer quelque chose ou remettre ou relâcher la bride. Ça, c'est quelque chose qui est possible. C'est non seulement compliqué dans la situation actuelle parce que on est toujours dans une espèce d'improvisation. On a le sentiment qu'il y a une relative improvisation. Et puis, on a le sentiment aussi que même si on décide quelque chose, il y a quelqu'un dans le gouvernement ou dans un des gouvernements qui dit autre chose. Et ça, c'est très perturbant pour la population. Regardez l'obligation vaccinale pour le personnel soignant, c'est quand même quelque chose de compliqué à cerner, de se dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on était d'accord il y a quelques mois? Pourquoi on n'est plus d'accord aujourd'hui? Pourquoi on est d'accord lundi, on n'est pas d'accord mercredi? Ça, c'est très, très difficile à digérer pour la population.
Sur cette vaccination obligatoire qui semble se mettre en place pour le personnel soignant, dont on discute aujourd'hui pour toute la population, en tout cas, c'est à l'étude, ça n'est pas exclu par certains partis. Est-ce que vous avez le sentiment que l'obligation est la solution pour convaincre les dernières personnes, ou les 15% de Belges qui n'ont pas envie aujourd'hui de se faire vacciner?
Mais aujourd'hui, ça n'est pas tellement d'abord encore à l'ordre du jour, hein, parce qu'on est loin. Si vous vous souvenez à quel moment on a commencé à parler de l'obligation vaccinale du personnel soignant, on est plusieurs mois plus tard et on ne verra instaurer cette mesure que dans quelques mois. Donc je pense qu'on doit y aller de manière modérée. Il faut peut-être ouvrir le débat, effectivement, sur la population, sur la vaccination obligatoire de la population générale. Pour l'heure, nous avons été très partisans de suivre cette proposition de vaccination obligatoire du personnel soignant, parce que sommes toutes, plutôt que de le considérer comme une punition de ce personnel, moi je pense que c'était effectivement aussi une façon à la fois de protéger ce personnel, de lui rendre un petit peu justice par rapport à tous les efforts qui avaient été consentis, et aussi de dire à la population, si vous allez vous faire soigner, ce qui est quand même quelque chose d'important, eh bien vous êtes dans un environnement qui est, pour le peu qu'on puisse en juger, beaucoup plus safe, beaucoup plus sécure que si des personnes sont encore non vaccinées. Alors je pense qu'on doit positiver cette mesure et plutôt dire, voilà, il y avait quelque chose qui était conçu comme une garantie supplémentaire de pouvoir assurer et au personnel soignant et aux patients, aux personnes fragilisées, un environnement plus sécure. Je note que les choses sont un petit peu dégradées aujourd'hui parce qu'on envisage les choses comme une punition. Moi, je trouve ça extrêmement dommage parce que c'est pas du tout la manière dont on pourrait le concevoir.
Ce qui était volontaire deviendra peut-être donc obligatoire. Est-ce que ça aussi, c'est défendable en termes d'arguments? Est-ce qu'on peut dire tout et son contraire?
Alors, de nouveau, je pense que l'évolution de la pandémie est telle qu'il faut prendre les choses comme elles évoluent. Et donc, il ne faut pas se dire une fois pour toutes, la décision est figée, ad vitam aeternam. Il y a des choses qui évoluent. Nous sommes évidemment des fervents partisans au baromètre de la motivation pour l'adhésion volontaire de la population. Et il faut avouer qu'en Belgique, ça n'a pas trop mal marché. Soyons quand même de bon compte, nous faisons des chiffres extraordinaires. Ceci étant, il reste une partie de la population qui n'est pas encore vaccinée. C'est une partie de la population qui n'est pas homogène. Et par rapport à des situations qui pourraient s'aggraver dans le futur, on devrait pouvoir au moins envisager la question. On le fait aujourd'hui pour le personnel soignant. Il y a à peu près 15%, si on prend la Belgique dans son ensemble, de personnel soignant qui n'est pas vacciné. Il existe un moment où des personnes sont encore à ce point hésitantes que le petit coup de pouce de l'obligation n'est peut-être pas complètement inutile.
C'est ça. En termes de psychologie sociale, vous reconnaissez qu'à un moment donné, il faut un peu le bâton pour que certains passent le cap. Ça existe, ça, comme argument.
C'est-à-dire que l'essentiel du chemin doit être fait de manière volontaire. Ça, c'est indéniable. Et on peut compter sur les personnes motivées, sur l'adhésion du plus grand nombre. Et de nouveau, j'insiste, ça a très bien marché. Maintenant, il y a encore toute une partie des personnes qui ne sont pas vaccinées aujourd'hui qui, au fond, hésitent. Et elles hésitent, pas parce qu'elles sont fondamentalement opposées. Il y en a, bien entendu, qui sont fondamentalement opposées. Mais il y a une partie de ces personnes non vaccinées qui sont aujourd'hui encore en manque d'informations, en manque de certitude ou d'assurance. Et là, parfois, ce qu'on constate, c'est que la décision qui doit être prise, qui est une décision qui n'est pas simple, on sait qu'il y a, pour une proportion très faible, mais il existe des effets secondaires, on sait que ces effets secondaires peuvent survenir, eh bien, prendre la décision de se vacciner au risque d'effets secondaires est parfois plus paralysant que de prendre le risque d'être malade de la Covid. Et donc, ces deux options, se faire vacciner avec le risque des effets secondaires ou ne pas se faire vacciner et avoir le risque de la maladie, la psychologie sociale indique qu'on a parfois tendance à opter pour la première. Et ce serait une petite aide pour certains. D'ailleurs, en réalité, plus de 70% des personnes non vaccinées dans notre dernière enquête nous indiquent qu'elles elles sont évidemment très, très soucieuses de ne pas regretter de se faire vacciner si elles ont un jour des effets secondaires. Donc peut-être que là, il faut les aider un tout petit peu à faire le pas, à soulager les personnes face à cette décision qu'au fond, elles ne prendraient qu'avec une extrême difficulté.
Vincent Yves-Orbit, on est au 35e baromètre, je crois, de la motivation, le 22e Codeco, et pourtant on a l'impression que vous revenez encore avec cette impossibilité du monde politique d'oser un autre message communicationnel, d'oser changer sa stratégie motivationnelle. Qu'est-ce qui bloque ? Est-ce que vous avez l'impression de crier dans le vide, quoi ?
Non, mais je pense que nous n'avons pas... nous sommes des experts parmi d'autres experts et je voudrais saluer le travail de tous ces experts, certains que je connais, d'autres pas, qui travaillent pour, je pense, avec beaucoup de conviction pour le bien de la population. Il est certain que c'est très compliqué. Je ne voudrais pas nécessairement être à la place des politiques pour diriger le pays. Je crois que c'est très compliqué. Nous avons quand même une lasagne institutionnelle qui n'est pas mince. Nous avons tout un ensemble de contraintes. Nous avons une tendance dans ce pays, effectivement, aussi... avoir peut-être, alors une concertation c'est très bien, mais peut-être une concertation qui dure et qui s'enlise parfois avec des avis qui émanent de toutes parts. C'est très compliqué, on a parfois le sentiment d'une improvisation et en même temps d'une lenteur. Les choses ne sont pas simples et à notre niveau, nous aimerions parfois effectivement être plus souvent écoutés que nous ne le sommes.
Un an et demi après le début de la pandémie, les dirigeants, les différentes autorités du pays continuent à se faire trop surprendre par ce virus dont on sait qu'il mute, dont on sait qu'il est imprévisible.
Oui, je pense qu'il y a... C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'il manque peut-être de volonté de se ranger derrière une seule bannière, qui est la bannière de la lutte contre la pandémie, avec une mise à l'écart temporaire, un peu dans des circonstances exceptionnelles, de se dire, voilà, on met un peu de côté un certain nombre d'intérêts plus immédiats de la part de certains dirigeants, qu'ils soient politiques, syndicaux ou autres. Je crois qu'ici, on continue à l'intérieur de ce contexte pandémique de trouver ce qu'on pourrait appeler des jeux particuliers qui sont encore à l'œuvre. Et ça, c'est un peu rageant.
Oui, c'est peut-être finalement un réflexe politique, un réflexe de la culture politique qui n'est pas toujours compatible avec le message qu'il faut faire passer.
Mais je pense que c'est une grande leçon, à mon sens, qu'il faut retenir. C'est que si nous voulons relever des défis majeurs, alors la pandémie en est un, mais le réchauffement climatique vient après et il sera d'une autre ampleur. Je pense que nous devons dès à présent nous mettre en ordre de bataille. Les experts sont souvent là pour envisager les choses à moyen et long terme. On ne les écoute pas souvent. Quand on voit ce que des personnes comme Jean-Pascal Van Ypersee l'ont dit il y a 20 ou 30 ans, on est toujours étonné de le voir sur les plateaux répéter encore toujours la même chose. C'est un peu dommage et le personnel politique, à mon sens, devrait s'appuyer beaucoup plus sur une vision à long terme basée sur une interdisciplinarité, des expertises nombreuses et nous en possédons dans ce pays. Alors pourquoi ne pas en profiter ?
Pour revenir quand même un peu sur le thème de cet entretien, hein, est-ce que les contradictions, les messages contradictoires, ça peut avoir sa place du coup, hein, dans une gestion comme ça politique d'une pandémie où on doit essayer de convaincre, de motiver. Vous dites aussi dans vos baromètres qu'il faut de la nuance, donc de la diversité, donc peut-être un peu de flou aussi dans les messages. Comment on essaye de gérer du coup ces antagonismes-là ?
Ce qu'on veut dire quand on parle de la nuance et de la complexité, c'est dire ne pas penser qu'un message doit s'appuyer sur une vision monolithique de la société belge. En réalité, quand on a des messages, il y a d'une part un message qui doit être prévisible, quelque chose qui nous annonce les marches à suivre et les seuils auxquels on passera à tel ou tel type d'action. Et puis, il y a par ailleurs la prise en compte de la diversité de la population. Parce que, de nouveau, si on veut être une équipe de 11 millions, ce ne sont pas 11 millions de clones, ce sont 11 millions de citoyens qui ont des choses différentes dans leur vie quotidienne. Et le message, il doit à la fois être puissant, fort, dans la prévision, mais il doit aussi être capable de prendre en compte la diversité des réalités que les gens rencontrent. Nous ne sommes pas tous dans des situations de maison quatre façades avec deux enfants et un jardin. Les personnes qui sont aujourd'hui issues de la diversité ont parfois encore beaucoup de mal à voir les messages, à être convaincues qu'on s'occupe véritablement d'eux. Et il y a des travailleurs sociaux dans les rues qui travaillent au jour le jour pour essayer de convaincre les personnes. Donc je crois que c'est cet effort-là qui doit être fait par le personnel politique et d'investir sur le long terme en matière de prévention et de soins de santé notamment.
Où est-ce qu'elle en est la motivation des Belges à suivre les mesures de manière générale ? Est-ce qu'elle est encore élevée ?
Alors, la motivation a baissé ces derniers temps, bien évidemment. Elle est encore relativement forte du côté des personnes vaccinées. Il y a une différence assez notoire avec les personnes qui sont pour l'instant encore non vaccinées. Je crois qu'il y a une forte inquiétude qui se fait jour dans la population par rapport au risque d'infection, avec une préoccupation très nette du côté des personnes vaccinées pour le risque d'infection sévère au niveau de la population, peut-être un peu moins pour les personnes elles-mêmes, donc elles sont conscientes qu'elles sont davantage protégées que les autres. Mais donc effectivement, la motivation est en berne. Il faudrait nécessairement pouvoir un tout petit peu remettre les choses en ordre de bataille au niveau de la motivation, réexpliquer par des messages simples. Je crois que le retour à des gestes barrières que les gens comprennent bien au fond, hein, les gens savent bien, et nous sommes ici dehors, dès que je vais rentrer dans le bureau, tous les collègues portent un masque et ça ne pose absolument aucun problème. Je crois que nous devons nous rabattre sur ces messages qui sont bien compréhensibles, bien maîtrisés et nous solidariser dans la lutte contre cette pandémie.
Et on est ici sur la Grand Place de Louvain-la-Neuve, hein, marché de Noël probablement. En tout cas, on est en train d'installer peut-être un événement ici.
Un événement, oui.
À côté de nous. Ça va être avec le Covid Safety Kit et le masque. Bref, c'est quand même un retour de mesures un peu plus strictes. Alors qu'on nous avait promis le Graal et les vaccins, est-ce que ça ne va pas saper justement la motivation pour la troisième dose, pour ce qui arrive encore, parce qu'on est encore en train de devoir motiver les gens pour aller se faire vacciner, ne fût-ce que pour la troisième dose?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, les débats qui ont cours ont peut-être le tort de nous divertir un tout petit peu de deux objectifs que je vois encore comme étant très importants. Continuer à travailler sur les pourcentages importants de population, notamment dans la région bruxelloise, qui ne sont pas vaccinés. Donc il faut continuer à investir de ce côté-là. Et je peine à voir les efforts du côté de la campagne.